Europe 1, Philippe Googler.
Et nous voyageons, vous le savez, tout l'été sur Europe 1, entre 16h et 18h. Tout à l'heure, après 17h, une destination un petit peu moins exotique que d'habitude, mais sacrément sympathique.
Que d'habitude, c'est dans, et dans une deuxième heure, un voyage très lointain en Belgique.
C'est ça. Donc ça, c'est après le flash de 17h. Mais là, pour l'heure, nous sommes à La Réunion avec Jean-Bernard Carrier, ses bons conseils. Alors, on n'a pas encore beaucoup parlé du volcan, le Piton de la Fournaise. Rien que son nom fait peur, Jean-Bernard.
Sa majesté, le Piton de la Fournaise. Vous savez que je suis comme les Réunionnais, je suis tombé amoureux de ce volcan. On lui voue un culte sur place, ouais. Un vrai culte, hein. C'est incroyable. Les Réunionnais sont dingues de ce volcan et j'ai vraiment compris pourquoi quand j'étais sur place. Vous savez que c'est l'un des volcans les plus actifs du monde. La dernière éruption date de février 2020 et en 2019, il y a eu 5 éruptions. Donc il est tonique, il est vigoureux.
Ça rigole pas du tout.
Il n'arrête pas. Il est tout le temps en éruption, enfin, très régulièrement en éruption.
Mais pas forcément des éruptions dangereuses.
Voilà, justement. Et justement, quand il y a une éruption, vous avez des files de voitures sur l'unique route qui mène au volcan. Tous les gens vont se précipiter pour voir ces coulées de lave sur les flancs du volcan. C'est un des grands spectacles de La Réunion. Et en plus, ce volcan, quand il n'est pas en éruption, il est très facile d'accès. Et là, je voudrais vraiment vous expliquer comment on y arrive. Il y a une route qui fait 30 km. Elle commence d'abord par traverser un paysage un petit peu de bocage normand, avec des vaches. Vous faites une 25 km. Et à un moment donné, vous arrivez sur une crête, vous êtes à 2500. C'est presque ça. Vous êtes à 2500.
Ça, c'est la vache qui s'enfuit devant la coulée de la.
Et vous êtes sur ce haut plateau, vous avez traversé ces paysages de bocage. Et soudain, c'est ça la bascule. Vous avez devant vous ce qu'on appelle la plaine des sables, un paysage à la Mad Max, complètement lunaire. Vous passez du bocage normand à cette étendue complètement désertique et lunaire. C'est l'approche du volcan. Là, ça y est, vous êtes passé sur la Lune, un paysage absolument incroyable, des palettes de couleurs ocre, gris et noir. Et ensuite, on descend en voiture dans cette plaine des sables. On continue 5 km, on remonte un petit peu. Et là, on arrive sous le belvédère. Et là, vous voyez tout le volcan face à vous. C'est l'un des volcans les plus accessibles au monde. Pour les plus sportifs, ce que j'ai fait également, eh ben vous descendez dans l'enclos du volcan, c'est la grande cuvette, et vous remontez sur le flanc du volcan jusqu'au rebord du cratère. Vous fait une petite marche quand même de 5 heures aller-retour. C'est un petit peu physique, mais alors vous avez un paysage surnaturel.
Au bord du cratère, c'est incroyable.
Vous avez un trou de 400 mètres, vous avez des fumerolles au fond. Ouais. C'est vraiment un paysage absolument dantesque.
Et si vous êtes paresseux comme moi, vous pouvez y aller en ULM.
Eh ben voilà, l'ULM. Voilà, l'ULM, vous faites un survol du volcan, c'est absolument mémorable.
Je l'ai fait et on s'est fait prendre dans une tempête, j'ai eu la peur de ma vie.
Ah bon,
c'était dantesque, l'ULM m'était secoué, mais comme une feuille dans le vent. On a fini par réussir à atterrir. Ils ont dû se jeter à 5 ou 6 sur l'ULM pour éviter qu'il ne s'envole une fois qu'il avait touché le sol.
Ah bon,
pour le bloquer, c'était incroyable.
Et vous avez atterri sur le sommet ou en bas?
Non, on a atterri en bas, on a fait le tour du sommet, on voyait les nuages qui arrivaient, c'était dantesque, c'était magnifique, mais je peux vous dire que j'ai très 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 peur.
C'est bon ça, enfin il faut bien calculer son coût, parce qu'effectivement la météo est très changeante sur le volcan, y compris quand vous faites cette balade à pied, il faut être très prévoyant.
Et alors, si vous les êtes vraiment casse-couilles, il y a un engin que j'ai essayé là-bas, ça s'appelle le gyrocoptère. C'est un ULM hélicoptère.
Avec une espèce de moteur dans le dos.
Avec une espèce de moteur à tondeuse à gazon et une hélice d'hélicoptère. Je suis monté, je vous assure que je ne le ferai plus jamais de ma vie.
Ça fait quel effet? Parce que je voulais le faire en fait.
Vous êtes comme sur un tapis volant avec une hélice d'hélicoptère au-dessus de votre tête. Vous n'avez quasiment pas de bord sur les côtés. Vous montez à 3000 mètres. Vous êtes terrorisé.
Non, mais je crois que je vais pas le faire finalement.
3000 mètres quand même.
3000 mètres.
Non, mais rien ne vaut une bonne randonnée sur les pentes du volcan, sous la lave solidifiée toute noire. Là, c'est magique.
Ouais. Alors, il y a la randonnée à La Réunion, évidemment, c'est spectaculaire, notamment dans ces cirques qui ne sont accessibles qu'à pied.
Alors, il y en a deux qui sont accessibles en voiture. Il y en a un qui est accessible qu'à pied, c'est le fameux cirque de Mafate. C'est mon préféré, je le connais par cœur parce que j'y ai fait beaucoup de randonnées pour Lonely Planet. Il n'y a aucune route, aucune piste qui permette d'entrer là-dedans. Il faut y aller à pied. Un cirque, c'est quoi finalement? C'est une immense cuvette, un immense cratère de volcan qui est éteint et c'est tapissé de végétation. Il y a des trous, des ravines, des pitons. On est vraiment coupé de tout. Et la particularité, c'est que le cirque de Mafate, il est habité. C'est des tout petits hameaux qui sont accessibles qu'à pied. Ils sont connectés les uns aux autres par des sentiers de randonnée. Donc le but, c'est d'aller dans ce cirque et de faire des randonnées qui peuvent durer de 2 à 6 jours. Ça dépend un petit peu de l'itinéraire où vous faites. Vous faites un petit parcours modulable entre et vous dormez dans les gîtes le soir chez les créoles. Et là, vous découvrez vraiment la vie de ce cirque complètement coupé du monde.
Et c'est là qu'elle est exceptionnelle. Les esclaves dont parlait Nathalie tout à l'heure.
Ouais, et c'est vraiment un monde à part, hein. C'est ça qui est dingue.
Complètement à part.
Un monde à part, et moi ça restera une de mes meilleures expériences de randonnée dans ma vie de voyageur.
Et il faut imaginer que les villages qui s'y trouvent, les matériaux de construction pour construire les maisons et tout ça, ils ont été amenés là à dos d'homme, pendant des heures et des heures et des heures de marche.
Et vous savez, Philippe, c'est dans ces gîtes le soir, après une bonne journée de randonnée, qu'on déguste un bon et copieux rougail saucisse des familles. Ça, ça vous remet bien d'équerre pour la marche du lendemain.
Pas le nord, hein.
Vous savez que le cirque de Sélaos, un autre cirque, il y en a trois. Le deuxième, c'est le cirque de Sélaos. Vous savez que celui-là, il y a une seule route d'accès, une route asphaltée. Elle fait 37 km, 400 lacets. Je l'ai fait des dizaines de fois. C'est une route de rallye incroyable pour aller à Sélaos.
Côté fête, il y a de quoi faire aussi.
Alors, on a dit que la Réunion est un melting pot avec des influences culturelles très diverses. Ben, moi, j'ai été extrêmement impressionné par les cérémonies tamoules autour des temples tamouls. Oui, il y a des grands temples très colorés, comme en Inde. Timidi, ça vous dit quelque chose? La fête de Timidi, eh ben, c'est des marches sur le feu. Vous avez tous les fidèles d'origine tamoule qui marchent sur des braises incandescentes. Il faut le voir pour le croire, mais c'est vraiment ça. Vous avez une autre fête qui s'appelle Kavadi, comme en Asie. Là, c'est les pénitents. Ils processionnent dans les rues autour de Saint-André. Ils se percent la langue et les joues avec des aiguilles d'argent et ils sacrifient des boucs. Ils décapitent comme ça autour du temple. C'est assez particulier et c'est légal à La Réunion parce que c'est une exception culturelle qui est faite pour cette population-là. Et vous avez une troisième fête également très colorée avec des processions. Ça s'appelle la fête de Divapali, également très connue en Asie. C'est la fête de la lumière. Vous avez plein de gens qui processionnent avec des bougies à la main. C'est un spectacle absolument incroyable. Voilà. Et en tant que visiteur, bien sûr, on peut assister à ces fêtes traditionnelles et c'est même le but d'ailleurs, c'est d'aller sur place pour se mêler à ces fêtes.
Ouais, le Cavadi, je vous le laisse.
Peut-être que vous transpercerez les fesses éventuellement,
enfin,
faut essayer.
Pourquoi voulez-vous qu'Olivier se transperce les fesses?
Je sais pas, c'est une expérience comme une autre.
Il se lâche en ce moment,
c'est
ce
un piercing, c'est la nouvelle mode de piercing.
On apprend ces trucs. À part la randonnée, il y a une petite activité supplémentaire qu'on peut faire.
Celle-là aussi, je la connais bien, c'est le parapente à Saint-Leu. C'est l'une des capitales mondiales du parapente. Saint-Leu, c'est sur la côte ouest, parce que vous avez tout simplement des conditions idéales pour le faire. 300 jours de l'année, un tandem avec un moniteur, et vous survolez le lagon pendant une vingtaine de minutes, et vous atterrissez sur la plage de Saint-Leu. Expérience mémorable, là également.
Super, merci beaucoup Jean-Bernard. Dans un tout petit instant, après le flash de 17h sur Europe 1, nous partirons donc pour une des destinations les plus sympathiques d'Europe, pour les bonnes tables déjà, les estaminets, le pot de chevelèche, le Waterzooi, et puis surtout des petites villes qu'on adore, comme Bruges, Knokke-le-Zoute, moi j'adore Knokke-le-Zoute, plus grande Bruxelles évidemment. Nous irons à Liège dans un instant sur Europe 1.
Et si on partait? Philippe Googler sur Europe 1.